Les éditions Télém présentent un enregistrement intégral de « Une éclaircie après l'orage » de Tamara McKinley, lu par Catherine Pajon. Aux femmes courageuses qui s'enrôlèrent dans l'armée, qui travaillèrent dans les usines, dans les fermes, partout où elles pouvaient remplacer les hommes, afin que ceux-ci puissent se battre pour leur patrie. Toutes ces femmes, je les salue. Prologue. Portsmouth, novembre 1942. April Wilton se cramponna au bord de la vedette lance-torpille. Le bateau fendait la surface agitée des flots gris du Solent. La jeune femme et son amie Paula Sims, toutes deux membres de la Royal Navy, venaient d'en réviser le moteur, qu'à présent on testait. La vitesse qui exaltait April eut au fait de balayer la mélancolie qu'elle promenait depuis son récent retour de permission. Le vent malmenait ses cheveux blonds, des embruns giclés des deux côtés de la vedette, que le pâle soleil hivernal faisait étinceler comme autant de petits joyaux. Lorsqu'elle s'était rendue chez elle, April rayonnait, avec, au cœur, l'espoir que sa mère admirerait son bel uniforme, qu'elle se sentirait fière de sa fille. Hélas, ses attentes s'étaient trouvées instantanément douchées, et la jeune femme avait dû se rendre à l'évidence. Mildred Wilton se révélait exigeante, égoïste, et elle passait le plus clair de son temps à se plaindre âprement des épreuves imposées par la guerre, comme si les combattants prenaient un malin plaisir à mettre en lambeaux son existence jusqu'alors confortable. Tout ce qui la faisait souffrir, Mildred en rendait les autres responsables. Il ne restait plus à April qu'à accepter le fait que sa mère ne changerait jamais, au lieu de la laisser lui gâter cette nouvelle vie, cette vie merveilleuse qu'elle avait découverte. « Je me réjouis de constater que tu retrouves enfin ta bonne humeur !» lui lança Paula. Le moteur de la vedette rugissait. « Il était si terrible que ça, ce retour au bercail ?» Malgré ses fermes résolutions, April se sentit triste à nouveau, en se rappelant l'indifférence dont Mildred avait fait preuve en la voyant. Elle fit oui de la tête et haussa les épaules. « Ma mère ne pensait qu'au nouveau stock de chapeaux pour sa boutique. » Après avoir écouté pendant un moment ses jérémiades habituelles concernant la pénurie de matières premières et l'incompétence de ses chapeliers, j'ai déguerpi pour rendre visite à un couple d'amis. Paula soupira en tapotant l'épaule d'April. Les parents peuvent se montrer tellement pénibles parfois. Mon père a passé presque toute la journée dans son bureau. Mais le fait est que nous sommes, toi et moi, absolument libres de nos mouvements. La vie est formidable, tu ne crois pas? Oh que si! April agrippa plus fort le bastingage, car le bateau, qui avançait toujours à vive allure, négociait maintenant un virage serré qui, sans l'adresse du pilote, l'aurait précipité par-dessus bord. Elle adressa un large sourire à son amie, dont la chevelure, comme la sienne, battait l'air. Les embruns éclaboussaient leur ciré. Impossible, avec ce vent, d'espérer tenir une conversation. April se délectait de l'exquis sentiment de liberté qu'elle éprouvait chaque fois qu'elle se trouvait sur l'eau. Son existence au sein de la branche féminine de la Royal Navy la comblait, entre autres parce qu'elle se situait aux antipodes de l'atmosphère austère qui régnait chez elle et loin des restrictions qu'on lui avait imposées au pensionnat où elle avait rencontré Paula. Les deux jeunes femmes étaient en classe de terminale lorsqu'un officier recruteur leur avait présenté, ainsi qu'à leurs camarades, le WRNS, le Women's Royal Naval Service. April et Paula avaient alors 18 ans. Elles s'étaient enrôlées le même jour, après quoi elles avaient suivi brièvement des cours dans une école de secrétariat. Leur amitié s'était nouée dès leur arrivée au pensionnat. Elles partageaient l'amour des livres, du cinéma et de la danse, mais surtout, elles ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'elles avaient vécu, l'une et l'autre, une enfance malheureuse. Paula n'avait pas encore 6 ans à la mort de sa mère, et son père, ne sachant quoi faire de son propre chagrin, ni, a fortiori, de celui de sa fille, s'était plongé dans le travail. Les vacances scolaires, Paula les passait avec une nounou revêche qui s'acquittait de sa tâche avec autant de froideur que d'efficacité. Le père d'April avait succombé à une crise cardiaque peu après le 9e anniversaire de sa fille, à laquelle il manquait toujours. Ils n'avaient, hélas, pas été particulièrement proches l'un de l'autre, car l'éducation rigoriste qu'il avait reçue l'obligeait à dissimuler ses émotions derrière une sévérité de façade. Il n'en restait pas moins qu'il s'était suffisamment occupé d'April pour faire office de tampon entre la mère et la fille.